c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, regardez autour de vous et même sur vous toutes les matières qui vous entourent. Je suis sûre que comme moi, dans ce studio, il y en a plein dont vous ne connaissez ni le nom ni l'origine. En plus, ce que nous voyons là, directement autour de nous, est le résultat d'une transformation. Le micro avec lequel je vous parle, par exemple, ne pousse pas dans la nature. Il a été fabriqué, il est composé de plastique, donc de pétrole, de métal et de plein d'autres matières qui ont bien été extraites de quelque part. Des minéraux et autres énergies fossiles que la Terre a mis des millions d'années à fabriquer. Nous les consommons sans compter, c'est la logique de l'extractivisme qui atteint une ampleur inédite. Cette exploitation est un facteur de croissance économique, nous dit-on. Oui, mais qui profite vraiment de ces ressources? Et est-ce une logique durable? Nous en parlons avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Creuser jusqu'où extractivisme et limite à la croissance, c'est le titre d'un ouvrage collectif publié aux éditions Éco-Société. Au fil des pages, 14 auteurs, tous plus diplômés les uns que les autres, nous expliquent que nous avons plongé dans un modèle de développement que nous risquons de payer très cher si nous n'ouvrons pas les yeux. Trois d'entre eux sont avec nous dans ce studio 42 de RFI. Alain Gras, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'anthropologie des techniques à la Sorbonne, où vous dirigez le Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques. Vous avez publié une douzaine de livres et là, vous signez un chapitre intitulé « Creuser la terre pour incendier le ciel, la tragédie du mythe extractiviste ». Il y a donc un mythe ?
Ah ben oui, c'est-à-dire que pendant longtemps, les sociétés sont interrogées sur ce qu'il y avait sous la terre et elles s'interdisaient à aller voir ce qu'il y avait dans les entrailles de la terre. C'était seulement les mineurs étaient tous des marginaux au sens c'était des prisonniers, c'était des esclaves au plus bas étage qui étaient là pour travailler dans les mines. C'est-à-dire que le travail lui-même de fouiller était considéré comme indigne d'un homme honnête. Et le renversement s'est produit il y a à peine deux siècles. Même jusque récemment, les mines de charbon n'étaient pas considérées comme un travail qui était valable pour un homme de qualité.
Et aujourd'hui, nous dépendons fondamentalement de ces ressources que l'on va chercher dans le sol. À vos côtés, Nicolas Cerciron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Et alors, vous publiez un article dans ce livre. Et puis, vous publiez un livre qui s'appelle aussi « La résistible ascension d'un duo destructeur, dette et extractivisme » aux éditions Utopia. Alors, à vous lire, le lien entre dette et extractivisme est flagrant.
Oui. Oui. C'est-à-dire que si on remonte juste à un demi-siècle, quoi, grosso modo, l'explosion de la société de consommation, n'est-ce pas ? C'est l'explosion de l'extractivisme, en fait. Parce que ce qu'on consomme a été effectivement creusé quelque part, ou a jailli, comme le pétrole. Et ça correspond à une époque très particulière, puisque c'est le moment où la colonisation de presque l'ensemble des continents par les Européens, y compris l'Amérique du Nord, mais bon, l'Amérique du Nord, elle reste une colonie européenne, hein, même si bien sûr on ne dit plus jamais ça, mais c'est pourtant le cas. Mais c'est le moment où la majorité des pays retrouvent leur indépendance. Or, comment faire alors que les armées coloniales d'occupation, et donc le travail forcé, etc., le vol des richesses naturelles pendant la période coloniale, n'est plus possible, en théorie, puisque les armées coloniales sont parties. Eh bien, la société de consommation explose avec des besoins qui explosent, des besoins de ressources naturelles, qu'elles soient végétales, minières ou fossiles. Eh bien, on va inventer la dette illégitime comme nouveau moyen d'asservissement, avec évidemment les assassinats de décideurs qui ne voulaient pas rentrer dans cette corruption par la dette illégitime, rentrer dans un univers où c'était la continuité, en fait, de la colonisation sous une autre forme. Hein.
Vous pensez à qui ?
Ah, mais il y en a beaucoup, que ce soit Lumumba ou que ce soit Thomas Sankara ou Allende. Tous ces gens-là ont été assassinés et remplacés par leurs assassins qui ont duré souvent une trentaine d'années au pouvoir.
Alors nous allons évidemment détailler tout cela. En ligne avec nous depuis Montréal, David Murray, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes historien et l'un des coordonnateurs de ce livre. Quel est l'objectif de cet ouvrage qui rassemble 14 penseurs, mais qui a quand même une ligne éditoriale très précise, hein ?
Ouais, ben en fait, l'idée, c'était d'abord avant tout d'assister une prise de conscience, en fait, d'un phénomène dont on entend de plus en plus parler. L'idée d'extractivisme, c'est quand même un terme qui est un néologisme. Donc, de participer un peu à cette réflexion-là, de définition de ce terme-là, d'explorer, en fait, c'est vraiment une démarche exploratoire, de certaine façon, d'où la pluralité là, des points de vue, des points d'ancrage et des auteurs qui ont participé à cet ouvrage-là. Donc, de participer à cette vaste réflexion-là pour alimenter le débat qui doit se faire sur ces questions-là, puisque c'est des enjeux qui nous préoccupent tous.
Je vous propose, pour planter le décor, de lire un extrait de votre livre, qui est cité d'ailleurs dans l'introduction, que vous avez rédigé, David Murray. Entre 1900 et 2005, alors que la population a quadruplé, l'extraction des matériaux de construction a été multipliée par 34, celle de minerais métalliques et industriels par 27, celle des combustibles fossiles par 12 et celle de la biomasse par 3,6. Plus récemment, le nombre toujours croissant d'objets nouveaux et de services rendus par leur intermédiaire, bientôt 2 milliards de téléphones intelligents vendus par an dans le monde, la demande accrue de matière et d'énergie de la part des pays émergents, Chine en tête, et la spéculation financière se sont traduits par l'envolée des prix de presque toutes les matières premières, accélérant l'extractivisme comme jamais auparavant. Et vous concluez, David Murray, aux quatre coins du globe, les nouveaux projets extractivistes pullulent comme si la Terre était un puits sans fond. Quand on lit cela, on a quand même deux, trois raisons d'être inquiet.
Effectivement. Oui, ce que moi j'ai voulu en fait surtout faire dans le texte introductif, c'est un peu de mettre les choses en perspective et de voir que si bon, il y a une longue histoire de l'extraction de ressources, disons d'exploitation des ressources du territoire, il y a véritablement un changement de paradigme qui s'opère à partir du début du 18e siècle et surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il y a littéralement une explosion en fait de ces pratiques prédatrices et extractivistes. Et c'est vraiment de mettre ça en perspective et de voir que bon, on s'en va directement dans une passe et de laquelle il faut sortir et d'où l'idée là, de réfléchir après ça collectivement à quelles sont ces voies de sortie-là qui ne sont pas nécessairement évidentes toujours d'entrée de jeu là, à élaborer et à mettre de l'avant.
Alors on va parler des solutions pour en sortir plutôt dans la deuxième partie de l'émission, mais là j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur le constat. Nicolas Cerciron, si on essaye d'expliquer ce que c'est que l'extractivisme, il y a quand même des définitions assez claires, c'est-à-dire qu'il faut que plus de la moitié soit destinée à l'exportation.
Il y a des gens qui définissent l'extractivisme comme ça, effectivement, avec 50% exporté.
Sous forme de matière première essentiellement et voilà, non transformée.
Effectivement, l'extractivisme, moi je le vois comme un pillage. Donc pillage, ça veut dire qu'on ne paye pas la ressource. Au bout du compte, on ne paye pas la ressource, ni aux habitants des territoires, ni à la nature. C'est-à-dire que la nature, on prend sans rendre. Bon, je ne sais pas si on pourrait rendre, mais quand il s'agit de ressources renouvelables, oui, on peut laisser la ressource se renouveler, ce qu'on ne fait pas. Donc déjà, il y a l'extractivisme des ressources renouvelables. Par exemple, les poissons. Les poissons, on les pêche tellement qu'ils ne se renouvellent plus. Et il y a bien d'autres choses, des forêts, etc. Et les définitions de l'extractivisme, dans le livre, Anna Bednik en parle très bien, Guy Dinas en a parlé. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste des définitions de l'extractivisme, parce que j'ai utilisé ce terme dans un sens très large. C'est-à-dire que j'ai dit... Oui, c'est un pillage parce qu'effectivement, les ressources sont volées, elles sont payées à personne et elles sont exportées pour le bien-avoir des multinationales ou des pays dits industrialisés et riches. Mais c'est aussi un pillage des ressources humaines parce que pendant des siècles, le pillage a été fait avec des esclaves. Hein, c'était la force de travail, c'était des esclaves. Et puis, je dis, aujourd'hui, l'extractivisme, il est aussi sur un plan financier. C'est-à-dire que la dette illégitime, non seulement c'est un levier du pillage, c'est-à-dire qu'on a imposé cette dette illégitime à travers des corruptions, des assassinats et tout, mais en plus... Puisqu'elle est illégitime, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été utilisée pour le bien-être des populations, alors qu'on leur demande de payer, elles sont victimes de cette dette. Et c'est pour moi une extraction. C'est-à-dire on extrait de la poche des populations de l'argent issu de leur travail pour rembourser des dettes qui ne leur ont pas profité.
Alain Gras, est-ce que vous souhaitez compléter cette définition ou en donner une autre vision?
Non, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'est ce que Gudinas appelle la néo-primarisation. C'est-à-dire que néo-extractivisme, par contre, c'est la primarisation. C'est-à-dire qu'on tombe sur, en fait, une situation qui était celle de nos pays il y a deux siècles, où c'est l'énergie, enfin l'énergie primaire, les forces primaires sont l'essentiel des ressources de ces pays. Donc en fait, ils ne peuvent pas se développer, parce que toutes leurs ressources sont dans ce qu'on leur enlève. Ces ressources ne sont pas des ressources pour eux, ce sont des ressources pour les autres.
Oui, parce qu'à partir du moment où on extrait les matières premières de façon brute, qu'elles ne sont pas transformées à l'intérieur du pays et qu'elles sont vouées à l'exportation, c'est vrai que les pays en sont dépossédés. Et ce qui est démontré dans le livre, c'est que finalement, ceux qui s'enrichissent sont les intermédiaires, mais pas les populations locales et pas les pays.
Oui, qui ne peuvent pas donc lancer une nouvelle trajectoire qui les amènerait à s'industrialiser d'une manière au moins limitée, mais au moins commencer la première phase.
C'est pas du vent sur RFI.
Nous parlons de l'intensification de l'exploitation des ressources naturelles aujourd'hui dans C'est pas du vent. Tout y passe, les forêts, l'eau douce, les minerais, le sable, la faune terrestre et marine, vous parliez des poissons à l'instant. Dès 1972, les scientifiques et les économistes du Club de Rome, issus de 53 pays, nous avaient déjà alertés avec leur rapport intitulé « Les limites de la croissance ». Un deuxième rapport a été publié plus récemment, « Le grand pillage, comment nous épuisons les ressources de la planète », coordonné par le chercheur Hugo Bardi, qui nous avait expliqué dans C'est pas du vent que nous sommes désormais complètement bloqué dans un cercle vicieux.
On utilise beaucoup d'énergie pour produire des minéraux. Il faut penser qu'aujourd'hui, on dépense plus ou moins 10% de l'énergie totale produite par les systèmes économiques humains. 10% est utilisé pour extraire les minéraux qu'on utilise. Donc c'est une quantité importante. Pour extraire les minéraux, il faut beaucoup d'énergie. Et sans énergie, on ne peut pas extraire les minéraux. Ça, c'est le problème que nous avons, parce que c'est l'énergie qu'on utilise, c'est aussi un minéraux. C'est du pétrole, du charbon, du gaz. Et ça, ce sont des ressources minérales. Et comme ressources minérales, elles ne sont pas renouvelables. On s'est créé vraiment un grand problème, le problème d'avoir pensé que les minéraux étaient vraiment infinis. Parce qu'on a vu qu'on continue à les extraire, on continue à augmenter, à croître avec l'extraction des minéraux. Et ça, ce n'est pas possible, toujours. On ne peut pas continuer à extraire à ce rythme, à ce débit de production. C'est vraiment difficile. On se trouve maintenant dans cette difficulté. Pourquoi ? Pas parce qu'on a fini les minéraux. Il y en a encore beaucoup. Mais on se trouve dans la difficulté d'extraire des minéraux qui sont beaucoup moins concentrés. Beaucoup moins concentrés. Il faut de plus en plus d'énergie simplement pour garder les débits d'extraction qu'on a maintenant. Mais l'énergie, c'est minéral aussi. Et il faut augmenter la quantité d'énergie qu'on utilise pour obtenir de l'énergie. Et ça, c'est un cercle qui nous donne les problèmes économiques qu'on a maintenant.
David Meuret, comment est-ce que vous réagissez à ces propos de Hugo Bardi qui nous démontre le cercle vicieux dans lequel nous sommes, toujours plus de matières premières, mais il faut toujours plus d'énergie pour les extraire, donc en fait c'est une fuite en avant sans fin?
Effectivement, je pense que Hugo Bardi résume très bien le problème et c'est un peu la même chose que dit Philippe Biwi dans un des textes qu'il signe dans le livre, à savoir que si on avait simplement un problème d'énergie et non pas de raréfaction des ressources, eh bien on pourrait aller chercher de la ressource, mais si on avait juste un problème de ressources et d'énergie infinie, bon, on pourrait aller toujours creuser davantage, alors que là on se trouve avec les deux problèmes se posent de manière concomitante. Donc on est réellement devant un problème qui est insoluble d'une certaine façon. Donc il faut réellement trouver une autre façon de réagir et de fonctionner, là, simplement.
Alors Alain Gras, la difficulté, c'est qu'on comprend bien que cet extractivisme, c'est à la fois le moteur et le carburant de la croissance. Donc on a quand même du mal à s'en désintoxiquer, on a du mal même à imaginer d'autres schémas.
Ah ben évidemment, les économistes sont incapables de penser la décroissance ou simplement l'état stationnaire, parce qu'effectivement, je crois que la dette est liée à cette extraction et le remboursement de la dette est lié à la croissance. Donc en fait, on est complètement bloqué par le système. Mais il y a plus que ça. C'est que là où le serpent se mord la queue, où la wivre souterraine ressort pour peut-être nous manger, c'est que l'énergie que l'on extrait, c'est pour extraire des minéraux, comme vient de le dire David Meuret. Donc en fait, l'énergie est déjà une pollution parce qu'on va la chercher sous terre, mais on extrait des minéraux qu'on va aussi chercher sous terre. Donc en fait, il y a une raréfaction et une prédation amplifiées l'un par l'autre. Ce lien entre énergie et minéraux est essentiel pour comprendre le problème aujourd'hui.
Mais en même temps, c'est la base de notre développement. Quand on dit qu'on a fait la révolution industrielle, le confort dans lequel on vit aujourd'hui est basé là-dessus.
Oui, bien sûr, c'est la base, mais justement, c'est peut-être là, sur ce confort, qu'il faudrait revenir. On peut peut-être garder le confort que l'on a maintenant, est un confort qui pourrait apparaître suffisant. C'est ça tout le problème avec la croissance, vous comprenez, c'est qu'on nous envoie dans un avenir qui est prometteur de je ne sais pas quoi, sinon qu'on aura des iPhones qui seront plus puissants et qui pourront dire papa, maman, mais à part ça, Quel est ce futur? Donc la question philosophique de la prédation de la planète par l'extractivisme est la condition fondamentale. C'est toute la métaphysique moderne qui se résume là-dedans.
Mais Nicolas Cerciron, en même temps, c'est assez confortable quand on est comme nous, là, tous les trois à Paris, de dire bah, on a suffisamment de confort, on pourrait peut-être réviser ça un peu à la baisse, mais on s'adresse sur RFI à des auditeurs qui n'ont pas ce confort. Donc c'est presque indécent, les propos que nous tenons, pour une partie de la population du monde.
Ben, c'est vraiment ce que je veux rajouter. C'est terrible. Selon la FAO, un tiers de la population mondiale,
l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation,
ne mange pas suffisamment pour avoir une vie active. C'est un chiffre absolument colossal. Alors là, on parle de qui? On parle d'une classe moyenne qui a réussi à acquérir peut-être 10% de la population mondiale, a acquis 50% de ses richesses. Et on sait que 50% de la population mondiale n'a rien, n'a strictement rien. Donc ces richesses, cette prédation extractiviste, elle est terrible. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, les matières sont exportées en brut, les emplois, la plus-value, etc., elle est au nord, chez les industriels, chez les transformateurs, chez les voleurs, parce qu'on est des voleurs. Moi, je suis peut-être pas un voleur personnellement, mais je profite du vol pratiqué par les multinationales, du vol...
Vous parlez de vol, mais enfin, il y a quand même des lois internationales qui protègent normalement les populations locales.
Ah oui, 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 sûrement. Mais les multinationales, elles se font faire des codes miniers, des codes forestiers par la Banque mondiale sur mesure, et elles mentent sur les quantités, elles corrompent les décideurs qui deviennent complices de ces prédations au détriment de leur peuple et au détriment du réchauffement climatique et de l'environnement qui est détruit. Et ça n'a strictement rien à voir avec les populations. Les populations aujourd'hui d'Afrique, elles ont un niveau de vie qui est 10 fois inférieur au nôtre. Donc on ne peut pas dire qu'on est riche par hasard. On est riche parce qu'ils sont pauvres. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé s'il y a un tiers de la population qui ne mange pas à sa faim et qu'un autre tiers de la population est en surpoids ou obèse, il y a quand même un sacré problème. Et ce problème, c'est un problème aussi bête que ça de vase communicant. Et ce vase communicant, il a été organisé. Les paradis fiscaux sont essentiels pour comprendre ça. Les multinationales mentent sur les quantités qu'elles extraient. Quand elles vendent, elles baissent leurs prix à travers les paradis fiscaux, ce qui fait que les taxes qu'elles doivent payer au pays sont extrêmement faibles. Et elles ne payent absolument pas ce qu'on appelle la dette écologique, c'est-à-dire que toutes les pollutions, toutes les destructions environnementales ne sont pas payées. C'est ce qu'on appelle un prendre sans rendre. Vous savez que les sociétés humaines se sont organisées sur le donner-recevoir-rendre. Si on reçoit, on doit rendre. C'est ça qui crée le lien social. L'extractivisme, c'est un prendre sans rendre, c'est une destruction des liens sociaux.
Et la difficulté, Alain Gras, c'est que, comme je le disais au début de l'émission, peut-être qu'arrive l'heure de l'addition, mais là pour tout le monde.
Oui, je pense pour tout le monde. Actuellement, l'absence de croissance dans nos sociétés est un exemple. Mais je voulais dire aussi que l'hypocrisie se poursuit et à travers une marche en avant technoscientifique, par exemple celle de l'énergie dite renouvelable. Parce qu'il est évident qu'on a quand même des moyens en Occident pour arriver à faire croire que l'on échange et qu'on est dans un système de réciprocité. Or, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Je voudrais ajouter aussi que c'est vrai qu'il y a l'Occident en tant que tel, le capitalisme en tant que tel, mais il y a quand même quelque chose qui s'est produit au XXe siècle, c'est le fait qu'on s'est trouvé face à une nature qu'on a complètement modifiée par le feu, par l'énergie fossile. Ça, c'est une question, disons, fondamentale qui nous met face à un abîme. Pourquoi a-t-on abandonné toutes les autres formes d'énergie? Et on a gardé une seule, c'est l'énergie thermique.
Mais parce que peut-être elle était plus accessible, elle était moins chère.
On a inventé la machine à ce moment-là, le moteur à explosion, puis d'autres moteurs. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient collectif, cette volonté de puissance que l'Occident a exercée à ce moment-là, qui est encore, disons, au-delà du capitalisme. Cette volonté de puissance de l'Occident, d'où vient-elle? Mais c'est une réalité profonde et qui est toujours...
De l'exploitation des énergies fossiles.
Oui, à travers des mécanismes technologiques qui sont fondés sur le feu.
David Murray, est-ce que vous voulez réagir à cela?
Oui, pourquoi on s'est tourné vers le feu? Je pense qu'il y a quelque chose qui... Le pétrole et les hydrocarbures, en fait, rendent des services incommensurables si on les compare à d'autres sources d'énergie. Mais pour pouvoir utiliser cette ressource-là, il a fallu quand même qu'il y ait une prédisposition, tout un imaginaire qui se crée. Lingrand en parle, entre autres, dans ses ouvrages, je crois. Et on pourrait dire que tout ça participe d'une espèce de commodification du monde. Si on voulait reprendre peut-être les terminologies de Descola, l'anthropologue, qui parle du naturalisme, qui est le propre de l'Occident depuis la Renaissance, où finalement, Finalement, on a objectivé en fait la nature, on l'a rendue, on l'a commodifiée, on a retourné un peu notre rapport au monde. Et c'est ce rapport-là qui pave la voie à l'accentuation de l'extractivisme, je crois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement questionner dans toute la réflexion sur cette question-là de l'extractivisme.
Alors, une fois posé ce constat de la fuite en avant, quelles sont les solutions pour en sortir ? Restez sur RFI, nous parlerons solutions justement avec nos invités juste après le flash d'info. À tout de suite.